Salut ceux qui sont sur Zoom, Alain l'a fait déjà. Et soyez tous et toutes les bienvenus. Quelques ados, adotes qui montent. Le dernier chant, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine et quelle vision vous avez sur le monde actuel. On est dans un monde où nous sommes obligés de performer. C'est-à-dire que ceux qui sont encore en activité, je ne parle pas aux retraités, si des fois pour ceux qui ont potager, vous êtes obligés de performer. Mais ceux qui sont encore en activité, nous sommes dans un monde de performance. C'est-à-dire que c'est nécessaire, or c'est pas mal en soi, nous sommes obligés de performer. Alors vis-à-vis de notre employeur, vis-à-vis de notre banquier, vis-à-vis de nos collègues, et parfois vis-à-vis de nous-mêmes. Et si on prend, on va ouvrir la Bible, je vous rassure. Hein, on va pas... Si on prend l'exemple de sportifs, ils sont obligés de performer. Et on va parler ce matin de l'estime de soi. Et la Bible nous dit de ne pas nous conformer au monde présent ou au siècle présent. Pour autant, l'obligation que nous avons dans notre vie au quotidien de performer, je disais qu'il n'est pas mal en soi, c'est nécessaire, c'est comme ça, dans un monde où il faut performer, sauf que ne te conforme pas au siècle présent ou au monde présent, on va voir que la Bible, et ça va être très clair dans le texte que l'on va lire, on va le lire, nous devons en tant que chrétiens et disciples être à l'opposé, c'est curieux hein, de dire qu'un chrétien ne doit pas performer, ou il ne doit pas, ouais, il doit pas performer. Mais on va parler de l'estime de soi. Donc je ne sais pas quelle estime vous avez de vous-même. On était avec les jeunes hier soir. Pour ceux qui sont là, tous ne sont pas là. Ils sont fatigués peut-être. Ça, on a fini tard. Mais dans le sport, parfois, il nous arrive d'être un peu présomptueux. Enfin, je ne sais pas vous, pour ceux qui font un peu de sport. Moi, j'ai du mal à perdre. J'ai du mal à reconnaître que celui d'en face peut être plus fort que moi. Et quand hier soir on joue au ping-pong, première balle, je suis arrivé avec un peu mes bras costauds, j'ai dit vous allez voir, première balle, chut, éjecté, j'ai perdu. Et j'ai dit aux jeunes qui étaient là hier soir, rappelez-vous ce qui s'est passé là, ce que je viens de dire, et la prédication de demain matin, quelle estime tu as de toi-même ? Et on va lire dans Romains 12, alors ne le cherchez pas s'il vous plaît, pardon, vous avez amené votre Bible, c'est très bien. J'ai amené la mienne aussi, mais on ne va pas le lire dans la version que j'ai là. On va le lire dans une autre version, ça reste la Bible. La version Bible du Semeur. J'ai lu ce texte la semaine dernière et j'ai vraiment médité ce texte. Et j'ai quelques versets qui ont retenu notre attention. Je vais vous le lire. Donc, c'est pour ceux qui prennent des notes, c'est Romains chapitre 12. Donc, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, on vient d'en parler, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez, au contraire, à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service et que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalant. L'esprit, soyez bouillant. Là, pour l'esprit, on peut traduire aussi l'état d'esprit, selon les traductions. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Pour l'espérance, qu'elle soit votre joie. Dans l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. On ne va pas analyser tous les versets. Ce qui m'a marqué, c'est le verset 3. Et c'est ce qui va nous servir de base, ça va servir de base de réflexion ce matin. C'est ce verset 3. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez à une sage appréciation de vous-même et chacun, selon la part que Dieu lui a confiée. Certains traduisent aussi, et certaines traductions, selon la part de foi que Dieu lui a confiée, pour la fin du verset 3. Alors nous arrive-t-il d'être présomptueux ? D'avoir, on voit bien que ce que j'ai décrit juste avant de notre société, la recherche de la performance et marcher un peu sur l'autre. À la fin de mes études, vous savez, quand on finit les études, pour certains, ils finissent là, vous avez un classement de comment vous êtes fini, si vous avez fini major de promo, si vous êtes premier donc de votre promo, deuxième, troisième ou dernier, bref. Ou pour ceux qui passent là des concours pour entrer dans les écoles ou autre. Et moi, dans la formation, quand j'ai terminé, le jury, à la fin, ils m'ont pris à part et ils m'ont dit « Benoît, ça devait être toi qui étais major de promo. Tu devais finir premier. Et on n'a pas voulu te mettre à la première place pour te donner une leçon. » Donc j'ai fini second. La leçon qu'ils ont voulu me donner, ça a été explicité de manière très claire, c'est qu'il fallait que j'apprenne à marcher sur la tête des autres. Et il fallait que dans mon travail, j'apprenne à écraser et pour avancer et à marcher. Ouais, c'était ça, c'était vraiment explicite. Il y a très longtemps, mais je m'en souviens. Et pour moi, je peux vous assurer, en tant que chrétien, je me mets là dans le contexte de l'écriture, hein, on est d'accord, hein, ça a été une fierté et une récompense, vraiment, de voir que ben j'avais... Enfin, ils voulaient que j'apprenne des choses, choses que moi, je ne voulais pas apprendre. Ce que nous voyons là, et on va le voir au travers de quelques personnages de la Bible, illustre, qui nous montre que même en tant que chrétien, parfois, à ce niveau-là, on peut manquer le but. Parce qu'on vit dans ce monde où on doit performer. Et en tant que chrétien, dans ma vie spirituelle, je peux me tromper en essayant de transposer cette recherche de performance à ma vie spirituelle. Parole nous dit bien, reste à ta place. Je résume ce que la parole dit dans le verset. Ne va pas au-delà de ce à quoi tu dois prétendre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et quelques personnages il doit certainement y en avoir d'autres, mais j'en ai pris quelques-uns, notamment Pierre. Pierre, à deux moments, il était tellement zélé, et c'était un personnage un peu impétueux. A priori, il avait un tempérament... méditerranéen, voyez, un peu le sang chaud, comme on dit chez nous. Lors de l'arrestation de Jésus, Pierre, alors il n'a pas cherché un glaive, il avait déjà un glaive, a priori, à sa ceinture. Donc ça démontre bien un peu le caractère du personnage. Il était prêt un peu à en découdre, hein, s'il fallait. Et là, Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, vous connaissez tous l'histoire, il sort le glaive, et coupe l'oreille d'un des centurions. Est-ce que Pierre, à ce moment-là, il était à sa place, il a fait ce que Dieu lui demandait, pourtant lui, il était sûr de son coup, il était persuadé, je pense, d'être dans son rôle, et de manifester de l'amour pour Jésus, de manifester sa foi, son zèle, son engagement, son état d'esprit, ok, il voulait performer. Or, je ne pense pas que quand il a sorti son glaive, il a analysé tout ça. Hein. Mais Pierre, à ce moment-là, a failli. Il n'était pas dans son rôle. Il est allé au-delà de ce que Dieu lui demandait. À un autre moment, Pierre, quand Jésus annonce à ses disciples ce qui va se passer, qui va être arrêté, qui va être mis à mort. Pierre, encore une fois, va dire « Seigneur, jusqu'à la mort, je te suivrai. » Un zèle et qu'on peut approuver, on peut dire « Waouh, Pierre !» Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Pierre, alors on parle de Pierre, mais les autres disciples... Ils n'y étaient pas non plus hein, auprès de Jésus à ce moment-là. Hein. Enfin, après, au moment de de la condamnation, quand Jésus était insulté, injurié, frappé. Et Pierre, encore une fois là, s'est surestimé et a eu une estime de lui un peu trop haute. Et est-ce que ça ne peut pas nous arriver, nous, parfois, dans notre vie de chrétien, d'être un peu comme ce Pierre-là, d'être un peu présomptueux et penser que, parce qu'on a 15 ans de conversion, parce que ceci, cela, et on va pouvoir faire les choses. Ce qui m'est arrivé moi hier soir au ping-pong. Hein. J'y ai cru, mais non. Jonas, sur l'estime de soi, quand Jonas reçoit l'indication de Dieu, d'aller à Ninive pour annoncer la bonne nouvelle, hein, c'était ça, hein, il fallait que la ville entière se repente. Et Jonas estime que le peuple de Ninive n'a pas droit à la grâce, en l'occurrence là, et ne mérite que l'enfer. Ce qui dénote que Jonas avait une estime de soi-même un peu plus haute que le reste du peuple ou que l'autre peuple. On connaît l'histoire. David, sur sa terrasse, alors qu'il devait être à ce moment-là au combat, sa place, c'était écrit comme ça, devait être au combat. Et là, ce jour-là, David estime qu'il peut se reposer et que, voilà, c'est trop haute estime de lui-même. Et David, on connaît l'histoire. Il n'a pas contenu sa chair, pensant qu'il pouvait peut-être y arriver tout seul. Et on connaît l'histoire, il a fini meurtrier. Enfin, l'histoire le ramène, avant sa repentance, à être meurtrier à ce moment-là, ok ? Adultère et meurtrier. Judas, le trésorier de l'équipe. Je regarde la trésorière. Comment Jésus a pu choisir Judas ? Trésorier de l'équipe. Il avait un problème avec l'argent, ce gars-là. Et, je dis ça avec respect, hein, Judas a eu une estime de lui-même un peu trop haute. Il pensait, qu'il pensait qu'il allait pouvoir réfréner ça. Et son problème avec l'argent, pouvoir le contenir. Parce qu'il comptait sur lui-même, sur ses forces, sur sa capacité à maîtriser ses sentiments. Et à l'arrivée, on connaît l'histoire, Judas s'est livré à Satan, clairement, pour de l'argent. Le brigand, un des deux brigands sur la croix, celui qui injuriait Jésus, avait une estime de lui-même très haute, au point de, il avait le Fils de Dieu, Jésus à ses côtés, qui mourait pour lui. Il n'avait pas saisi cette grâce-là à ce moment-là, et l'estime qu'il avait de lui-même, même en étant crucifié sur une croix, c'est-à-dire que son sort était réglé, il allait mourir. Même dans ses dernières minutes heures et minutes de vie, le gars, il a encore une estime de lui-même très haute. J'essaie de ne pas mettre mes lunettes parce que sinon ça me trouble, je vous vois. On reçoit ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on reçoit très régulièrement des publications chrétiennes qui nous poussent, et j'ai vu des choses cette semaine en l'occurrence, qui nous, si on ne fait pas attention, et qui nous amènent à ce que j'évoquais juste avant, à être performants, notre vie spirituelle. On voit, là j'ai vu passer des choses cette semaine, je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, je ne les ai pas lues, mais juste le titre, les 5 clés, alors je l'ai noté, hein, les 5 clés pour prendre de l'assurance en Christ. Ok. Donc il y a des, a priori des recettes. Où rentre vraiment dans ta destinée et sois plus que vainqueur. Alors la Bible le dit qu'il faut qu'on soit plus que vainqueur, mais il faut pas se tromper. C'est pas avec notre force à nous, c'est pas avec des recettes ou des clés qu'on va trouver des manières de manager. Parce que là on rentre dans de la pensée positive ou dans du management d'entreprise ou de en se disant allez je vais y arriver par mes efforts ou en trouvant des clés, ce que j'ai reçu cette semaine. La seule pour nous chrétiens réalité et ce que l'on doit vivre, c'est ce que la parole nous dit. Et la parole nous dit ne va pas au-delà de ce à quoi tu dois prétendre, ne tends pas à une sage, tendez à une sage appréciation de vous-même, pardon, et chacun selon la part que Dieu lui a confiée. C'est juste ça, notre part. je fais du tennis avec Julien de temps en temps, assez régulièrement, et on a, l'un et l'autre, on a du mal à perdre, je vous le disais. Donc quand il y en a un qui a gagné un set, on remet un autre. Des fois, on joue 2 heures, 3 heures, parce qu'on ne veut pas partir sur une défaite. Et au ping-pong, c'est pareil. Notre vie chrétienne, ça a été dit ce matin explicitement dans certaines louanges. Elle est faite aussi, parfois, d'épreuves. Nous devons passer par le creuset. Nous comprendrons parfois les choses plus tard, et des fois on ne les comprendra pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'accepter que Dieu est souverain. Si j'accepte dans ma vie de chrétien que Dieu est souverain et que c'est lui seul, je vais garder cette parole-là et ce verset 3, je vais rester à ma place. C'est clair ce que je dis ? Pas. Alors on va illustrer juste, je ne vais pas être très long, hein, vraiment, hein, on n'est pas loin de la fin. Deux personnages de la Bible qui, de par l'histoire, nous démontrent que c'est possible. Que de vivre ce verset 3 du chapitre 12 de Romains, il est possible de le vivre. C'est Esther. Vous connaissez tous, ou pour beaucoup j'espère, l'histoire d'Esther. En exil, le roi Assyrus, vous le prononcez comme vous voulez, ouais, mais il y a des I, des U qui s'enchaînent. Elle est reine, ok, elle a été choisie comme reine, et là, il y a le favori du roi, Aman, qui arrive à persuader le roi que il faut que tout le monde se l'adore, s'agenouille, donc bien sûr le peuple juif. Il fait ça avec des fins, c'est calculé, hein, Aman, hein, ce qu'il fait, hein, de manière à ce que le peuple juif soit complètement exterminé au final. Et là, on connaît l'histoire. Qu'est-ce que fait Esther ? Esther, c'est une des favorites donc, du roi, elle est reine, elle a le statut de reine. Elle aurait pu, Esther, comme Pierre, dire « Je suis reine, je vais voir le roi direct et l'affaire elle va être réglée ». Comme quand Pierre il a sorti son épée. Est-ce qu'Esther a fait ça ? Esther, elle n'a pas fait ça. Mardoché. Qu'est-ce qu'il a fait, Mardoché ? Il venait tous les jours hein, auprès de la maison des femmes du roi pour s'enquérir de la santé, comment elle allait, Esther, si ça se passait bien, si ça roulait. Si... Mardoché, il aurait pu... faire différemment, on sait comment il a fait. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Mardoché ? Je vous pose des questions, mais je n'ai pas envie que vous répondiez. S'il y a une erreur, je ne veux pas qu'il y ait un malaise. Mardoché, il a d'abord pris le sac et la cendre. Symbole d'humiliation ou d'humilité. Mardoché, il n'a pas dit « on est le peuple élu », en gonflant les épaules et... Il a pris le sac et la cendre à Mardoché. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est d'abord allée chercher des informations. Elle a envoyé un serviteur, dit « il y a un truc qui se passe et qui n'est pas clair ». Donc elle est allée chercher les informations. Une fois qu'elle a eu les informations, elle savait que si elle se présentait devant le roi sans avoir été invitée comme ça, c'était « quick ». Les jeunes diraient elle était mourue. Si elle... Vous comprenez ? Elle savait que c'était réglé pour elle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Elle a demandé à Mardoché, à ses serviteurs à elle et au peuple de jeûner et de prier. Et après avoir jeûné et prié, elle est allée voir le roi. Elle a pris ce risque quand même d'aller voir le roi sans avoir été appelée, mais il s'était d'abord placé à genoux devant Dieu. Esther, dans ce qui s'est passé, elle n'est pas allée au-delà de ses prétentions. Elle est allée d'abord devant Dieu. Chacun a fait selon sa part. en jeûnant et prier, ses serviteurs, Mardoché, le peuple, chacun. Est-ce que c'est un bel exemple ? Ça m'a marqué, moi, en tout cas par rapport à ce verset-là. Esther et Mardoché, et le peuple avec, ils ont appliqué de manière très précise, n'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre. Tendez à une sage appréciation de vous-même. Esther était reine. Elle aurait pu se dire, je suis la reine, je vais gérer la chose. Elle a eu une sage appréciation d'elle-même. Et chacun selon sa part. Alors pour terminer, pour compléter, oui, la Bible nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. C'est vrai ou pas ? Dans le sens où on doit, c'est la parole qui le dit, on doit rechercher clairement aux dons les meilleurs. Je ne vais pas le transposer autrement, c'est écrit comme ça. Mais cette recherche d'aspirer vraiment aux dons les meilleurs doit être toujours, toujours, toujours guidée par l'humilité, par la soumission à mon Dieu et par l'amour de mon prochain. Les disciples... on a parlé de Pierre, de Judas, entre autres. Mais les disciples, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, certains vont s'approcher de Jésus, lui disant, dis-nous, quel est le favori, quoi. Ça voulait dire ça, clairement. Qui est le meilleur d'entre nous ? Et ils n'étaient pas à leur place en posant cette question-là à Jésus. Et d'ailleurs, ils vont être recadrés de manière... avec amour par Jésus, mais ils se sont posé la question parce que la nature humaine est comme ça. Et dans ce que nous avons lu dans Romains chapitre 12, il est parlé du corps. Et c'est pris dans la Bible à plusieurs reprises le fait que le corps humain est fait de plusieurs membres et c'est transposé pour l'Église. Nous avons chacun notre place. Dans le corps humain, il y a un membre, je parle du petit orteil, qui est toujours caché, qui sert pas à grand-chose, a priori. Ma pipe pourrait... Enfin, je sais pas, il sert à quelque chose. Voilà. Mais ce petit orteil-là, dans le corps humain, qui est caché, qui parfois gêne, mesdames, quand vous mettez les chaussures un peu effilées, il passe par-dessus l'autre, là, ou par-dessous. On se dit, mais il sert à quoi, ce truc-là ? C'est vrai ou pas ? Je ne mets pas, moi, des chaussures effilées. Mais on peut se dire, il ne sert pas à grand-chose. On ne le voit pas, d'abord. Et donc, à la limite, il n'y serait pas. Ça serait pareil, parce qu'on ne le voit pas. Encore un pouce, le petit doigt, on peut gratter l'oreille. Vous voyez, on peut trouver des fonctions, là. Parce qu'en plus, on le voit. Mais le petit orteil, il est caché, il nous gêne. Bref. Le petit orteil sert à l'équilibre, en fait. Avoir une juste appréciation de nous-mêmes, c'est aussi noté dans le verset 16, je crois. Au verset 16, je me le suis noté. Je vais le lire. Ne cherche pas... Claire, hein, tu ne cherches pas. Hop, verset 16, je l'ai. Toujours dans le chapitre 12. Hein. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Et je vais vous lire, hop, je vais vous lire, je le trouve, un autre verset. C'est dans Romains, chapitre 12, et le verset 10, c'est celui-ci que je cherchais. L'amour fraternel Donc soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'Église est comparée au corps humain à de nombreuses reprises. On a des frères et sœurs dans l'Église qui arrivent des fois le dimanche matin à 8 heures. Certains pour déballer des colis, pour préparer, d'autres pour préparer la scène, d'autres pour faire chanter, bien sûr, les techniciens pour préparer Zoom, d'autres qui viennent le samedi pour faire le ménage, d'autres qui viennent des fois en semaine pour arroser à l'extérieur les plantes. Bref, certains services qui sont visibles, effectivement, et d'autres services, qui sont invisibles, comme le petit orteil. Et pourtant, qui servent clairement à l'équilibre de l'ensemble. Et en tant que chrétien, disciple, serviteur, je dois appliquer ce verset 12, c'est ça, le verset 10, l'estime mutuelle. Nous devons estimer notre frère et notre sœur. C'est écrit dans la parole. C'est clair ou pas? Donc, ne culpabilisez pas si vous avez un service non visible. Et peut-être que c'est un service que vous faites à la maison. C'est-à-dire que parce que vous êtes quelqu'un qui intercède et qui prie. Peut-être vous passez des coups de fil ou vous visitez. C'est non visible. En tout cas pour l'ensemble, on va dire. Mais faites-le. Vous êtes à votre place. Nous ne devons pas prétendre à autre chose, à ce que Dieu nous a appelé. D'accord ? Que Dieu nous guide, c'était tout. Hein ? J'en ai terminé. C'était clair ou pas ? Donc je vais vous lire juste quelques versets que j'ai pris soin de préparer, qui reprennent un peu tout ce que j'ai partagé ce matin. Hein. On va prendre la scène en suivant. Ne cherchez pas, je vais vous les lire toujours dans une traduction, la traduction du semeur. Hein. C'est dans Jacques, en l'occurrence. Là, y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? C'est une question qui est posée. Hein. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. C'est clair. Donc je l'ai lu celui-ci tout à l'heure. Pour l'amour fraternel, donc soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pour l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Dans Pierre, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Dans Colossiens, ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Il n'est parlé à aucun moment de performance, de performer et de chercher toujours plus. Il est parlé à chaque fois d'humilité, de bienveillance et d'estime mutuelle. Que le Seigneur, vraiment, nous aide les uns les autres et de manière collective à pratiquer et à vivre pleinement ce verset 3 de Romains 12. Amen. Je vais demander aux frères, si vous voulez bien, qui ont été désignés pour servir le repas du Seigneur, la scène. Pour vous qui êtes baptisés,